Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, parlons vrai entre 11h et midi avec aujourd'hui Olivier Dartigolle, porte-parole du Parti communiste français, élu municipal à Pau. Bonjour Olivier, content de vous retrouver.
Merci.
Mathieu Alterman, journaliste, vous avez publié Les larmes de Johnny aux éditions Garnet Nord.
Bonjour.
Vous allez pouvoir publier un tome 2 là. Hein. Ça continue.
Ouais, je suis au tome 4 en ce moment d'ailleurs.
Noémie Alioua, journaliste chroniqueuse à La France Libre. Je rappelle votre livre L'affaire Sarah Halimi, paru aux éditions du Cerf. Et Jacques Myard, maire de Maison Lafitte. Bonjour cher Jacques Myard. Vous étiez député Les Républicains. Voilà, beaucoup d'actualités.
Je resterai républicain.
Vous restez, mais pas député.
Non, bah,
les maires.
C'est la vie, hein.
Les annonces d'Édouard Philippe, mesure ou mesurette, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça suffit à vous calmer? On va y revenir. Est-ce qu'il faut développer le télétravail pour lutter contre l'absentéisme? Moi, j'avoue que la corrélation des deux, c'est-à-dire de lutter contre l'absentéisme, quand on est malade, on ne travaille pas, non? Ou alors ça concerne une petite partie de personnes qui ont effectivement besoin de rester chez eux en période de convalescence. Mais de dire qu'on va développer le télétravail pour lutter contre l'absentéisme, moi, je trouve que l'argument est étrange. Et puis, si on a le temps, on parlera de l'éventuel retour de François Hollande qui envoie des petits messages par-ci, par-là pour dire qu'il est toujours là. Allez, coup de gueule, coup de cœur. Noémie, vous vouliez faire un coup de cœur,
Oui, un petit coup de cœur sur le général Pierre de Villiers qui était ce matin en interview et qui a parlé. On lui a posé la question sur l'armée européenne. On sait que c'est le grand sujet en ce moment. Hier, Madame Merkel était au Parlement européen, justement, et elle a repris l'idée de Macron sur cette volonté de créer une armée européenne. C'est d'ailleurs ce qui avait mis les feux aux poudres avec Trump. Donc l'idée peut paraître alléchante, protéger le vieux continent, plus jamais de guerre entre voisins, une coopération pure et parfaite. Mais le général Pierre de Villiers posait la question extrêmement importante, il me semble, de celle du patriotisme européen, c'est-à-dire est-ce qu'un homme est aujourd'hui prêt à mourir pour la construction européenne ? Et il pense que, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, non. Je pense qu'il a raison. Et c'est la question fondamentale qui doit précéder celle de la façon dont on amènerait
une
armée européenne.
Et ça le restera longtemps.
Il me semble que ça l'est également.
Oui. Un mot, une réaction.
Non, je suis d'accord, c'est une utopie.
Olivier Dartigolle.
Malheureusement. Hein.
Ouais.
Non, pas malheureusement, parce que c'est hétérogène. Ouais, non, c'est pas malheureusement. Parce qu'il faut une unité politique qui décide. Voilà le problème.
Oui, c'est ça. Il faudrait faire un compromis. Il faudrait que les pays fassent des compromis sur leur sécurité. On sait qu'il y a des stratégies qui sont différentes. On n'a pas tous les mêmes ennemis. On n'a pas tous les mêmes amis.
Et puis, dans l'affaire de Trump, enfin, c'était un peu fort de café, parce que Macron a dit qu'il faut se protéger contre tout, la Russie, la Chine et les États-Unis. Oui. Enfin, il y a quand même des limites. Les États-Unis, jusqu'à nouvel ordre, je sais bien, on est alliés au sein de l'Alliance Atlantique. Oui. Donc c'était un peu fort de café. Il s'est fait ramasser à juste titre. C'est un gamin, ce Macron.
Votre coup de cœur, coup de gueule,
Alors
Jacquard.
Moi, mon coup de gueule, d'abord, je vais commencer par Macron, qui se permet de parler en anglais officiellement à Paris, à Trump, alors que jusqu'à nouvel ordre, le français est la langue de la République.
C'est votre combat, ça.
Ça, c'est mon combat permanent. Et mon coup de cœur, c'est aussi à Macron, parce qu'il est le meilleur opposant à soi-même.
Ou à lui-même. Développer,
voilà. C'est très simple, il fait tellement de bêtises sur bêtises qu'on n'a pas besoin d'être en opposition, on n'a qu'à le regarder et l'entendre.
Ouais. Alors, c'est la une du Parisien ce matin qui dit, et pendant ce temps-là, Marine Le Pen se frotte les mains, mais Marine Le Pen, oui.
Il
n'y
a pas que Marine Le Pen.
Non, il n'y a pas que Marine Le Pen, mais enfin, c'est quand même la grande bénéficiaire, je pense, de ce qui est en train de se passer. Enfin, on verra, on pourra en redébattre. Mathieu, votre coup de cœur.
Moi, c'est un coup de cœur, c'est un peu plus fun et pop, on va dire. Ouais. C'est le livre de Pierre Berville, qui est un grand publicitaire, peut-être le plus grand publicitaire des années 70, 80, 90, qui est notamment l'auteur de la campagne « Demain j'enlève le bas, après-demain j'enlève le haut, on voit la fille qui s'est habillée ».
Et
il a sorti son autobiographie qui s'appelle « J'enlève le haut », qui vend d'ailleurs sur Amazon. Il a un contrat assez intéressant parce qu'il pense que c'est l'avenir du truc. Et c'est passionnant parce que c'est l'histoire d'un type qui a démarré comme instituteur, puis après il était rock critique, et il est devenu millionnaire dans la pub alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, en étant à la tête de campagnes mythiques du genre « Dans Bangaï, il y a de l'eau, c'est doux, c'est neuf », enfin, des trucs. Il a obtenu des prix dans le monde entier et sa vie est passionnante. Et surtout, c'est l'âge d'or d'une pub qui n'existe plus, quoi, parce qu'aujourd'hui, c'est
une autre époque. Ce que j'allais dire, c'était une autre époque, avec des slogans, avec
la créativité. Et des réalisateurs comme Ridley Scott ou Alan Parker, qui étaient appelés, qui réalisaient des pubs. Ouais, pour
intelligent, au moins.
Ah, oui.
On se souvient des pubs Citroën de ces gars-là. Enfin, c'était vraiment
une autre époque. Et ce livre montre qu'il y a quand même eu une parenthèse enchantée où on pouvait tout faire. Et dès qu'il proposait un truc délirant et très cher, on lui disait « Ah bah ouais !» Et il était le premier étonné.
C'était quelle année ?
Les années 70, 80, ah oui, 90. Non,
j'enlève le bas, c'était 81. 80.
Mais enfin, il y a plein de pubs mythiques. Et puis, il a vendu pour beaucoup, beaucoup d'argent aux Américains. Et c'est vraiment le premier surplus
de son
succès.
Ah bah, s'il a vendu aux Américains, il est fort. Bravo.
Olivier, c'est un coup de gueule.
Oui, par rapport à... On a suivi le Forum pour la paix, initiative de Macron. Beaucoup de, j'ai envie de dire, de buzz médiatique, une image positive. Et pendant ce temps-là, aucune initiative française concernant cette guerre effroyable au Yémen, dont on ne parle absolument pas. Les observateurs de l'ONU nous disent qu'à terme, avec le blocus du port Hodeida, c'est plus de 13 millions de Yéménites qui seraient victimes de cette situation. Des pays ont pris la décision de stopper la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Le dernier relevé qu'on fait, c'est 2,6 milliards de ventes d'armes de la France vers la coalition. Donc ça va très mal, c'est entre les paroles et les actes. Quelle initiative forte. Et puis, Gaza est sous les bombes. Ça me touche beaucoup parce que nous avons beaucoup de contacts avec
Gaza. Pas mettre en rapport le Yémen et Gaza.
Je veux terminer sur une chose, je vais vous répondre pourquoi. Donc il y a cette guerre au Yémen qui est effroyable et les résolutions de l'ONU en Palestine, le droit international n'est toujours pas respecté. Oui. Et donc moi je souhaiterais une diplomatie française plus offensive sur ces questions-là.
Enfin, le Yémen, il y a l'Arabie Saoudite, où on a vu qu'on n'était pas très courageux sur l'affaire Khashoggi. Donc,
oui, exact.
C'est effectivement.
Au Yémen, c'est une tragédie, parce qu'il y a le choléra, il y a la montée en puissance d'Al-Qaïda, notamment à Aden. Donc, c'est tout faux. Et c'est effectivement MBS qui a voulu déclencher cette guerre pour se faire, je dirais, une renommée internationale de musclé. Mais il y a un problème. Vous savez, les ventes d'armes, celui qui arrêtera de vendre des armes, il n'est pas né en France. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que sur cette affaire du Yémen, je crois qu'on pourrait être beaucoup plus actif pour dire maintenant arrêter et trouver une solution politique. Parce que c'est véritablement quelque chose d'assez tragique.
Oui, et c'est vrai que c'est un silence.
Les médias
pas complètement.
Le scandale, c'est complètement.
Vous aviez un beau papier dans l'UMA hier, et il y a quelques jours, l'IB a fait un dossier.
Non, il y a quand même, même le Figaro en parle. Non, tout le monde en parle. Moi-même, j'étais à Bruxelles et j'avais fait une conférence conférence globale avec le prochain Moyen-Orient, et sur cette affaire du Yémen, effectivement, c'est une tragédie. C'est d'autant plus une tragédie que c'est véritablement au Yémen qu'il n'y avait pas de réelle rivalité entre les chiites et les sunnites, et qu'il y avait des mariages interreligieux, si je peux me permettre ça. Et donc, c'était à certains égards, en réalité, ça a débuté par une jacquerie des gens du Nord, qui trouvait que le président Saleh, qui était à Sané, ne s'occupait pas suffisamment du Nord. Et ensuite, ça s'est, amalgamé sous la pression de l'Arabie Saoudite, accusant l'Iran, mais l'Iran était arrivé bien après.
Et c'est l'un des pays les plus pauvres du secteur.
Cela dit, sur Gaza, c'était votre coup de gueule, c'est qu'il y a très peu de... Là, pour le coup, on en parle assez peu dans la presse.
Ah, mais attendez, la réalité sur Gaza, Gaza a envoyé 400 roquettes sur Israël en une journée. Et Courrier international titre, Gaza sous les roquettes. Mais où on va ? Je veux dire, il y a 69% d'augmentation des actes antisémites en France. Est-ce que le but, c'est d'en avoir 95% en racontant n'importe quoi ?
Je fais la différence. On peut ne pas absolument pas verser vers l'antisémitisme, bien sûr, qui doit être un combat, et ne pas être d'accord avec la politique du gouvernement israélien.
Vous avez raison, mais en l'occurrence,
je fais toujours attention.
Vous avez raison, on peut tout à fait dire, et il faut dissocier les deux, mais monsieur a raison. Avant
je voudrais terminer sur un point, simplement sur le respect du droit.
Il faut parler des roquettes qui sont envoyées depuis plusieurs jours sur le sud d'Israël et de cette situation qui est insupportable.
Si on veut le multilatéralisme, il faut la paix et le droit international. Il y a des résolutions de l'ONU qui ne sont toujours pas respectées par le gouvernement israélien. Deux États, Jérusalem-Est comme capitale pour les Palestiniens.
Le Hamas est contre.
Oui, mais ce que je veux vous dire,
c'est que... Le Hamas veut la destruction d'Israël, c'est dans la charte,
monsieur. Ce que je veux vous dire, c'est que la France devrait prendre des initiatives diplomatiques fortes.
Mais ils s'en foutent. Les Israéliens s'en foutent, les Palestiniens s'en foutent. Le Réal, il est là.
Et encore heureux, on appelle ça la souveraineté.
Absolument.
Et Gaza est une prison à ciel ouvert.
Moi, j'avais un...
Tout de suite, les grands mots.
Mais bien sûr.
J'avais un coup de gueule.
Comment vous allez pour Gaza? Comment vous faites?
Vous pouvez passer par la Jordanie.
Oui, mais vous êtes surtout stoppé par les autorités israéliennes.
Et égyptiennes qui font exactement le même blocus, monsieur.
On ne va pas faire le débat ce matin, parce que je pense qu'on pourrait y passer. C'est dommage, parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps.
Ça prouve la passion autour de ce débat.
Il y a la passion. Il y a des gens qui n'y ont jamais foutu les pieds, qui savent, et des gens qui y vont, qui
ne
disent pas la même chose.
Non, mais attendez.
Non, mais c'est un débat impossible.
Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on arrive à trouver une solution politique.
Bien sûr.
Il faut tout faire pour le faire.
C'est un débat impossible. Moi, je voulais... Alors, c'est pas un coup de gueule, parce que le mot s'y prête pas. Hier, moi, je n'ai pas traité volontairement le suicide de la policière Maggie Biscupi, hier. Parce qu'on ne savait pas, parce qu'un suicide est une affaire intime, une affaire personnelle. Et je voulais, là, pour le coup, pousser un coup de gueule sur la récupération politique, où on a eu tous les hommes politiques toute la journée qui ont réagi en parlant du mal-être des policiers, certes réel, sauf qu'il y a d'autres causes à un suicide.
C'est
et c'est le cas, et c'est ce qu'on a appris. Donc, je trouve que de polémiquer, de faire des sujets sur le mal-être des policiers, en l'occurrence sur ce sujet-là, n'était pas bien vu.
Il y a visiblement d'autres éléments qui viennent aujourd'hui infirmer peut-être le suicide, et moi je suis assez stupéfait.
Infirmer le suicide ou
Infirmer le suicide.
C'est-à-dire qu'elle aurait été assassinée?
En tout cas, il y a eu une lettre.
Elle a écrit une lettre pour expliquer qu'elle avait détourné des fonds au sein de son association, qu'elle avait eu des pressions, qu'elle avait du mal à assumer. Donc il y a d'autres, choses, mais en tout cas...
C'est venu après le suicide du gendarme à Matignon aussi, qui est aussi une des affaires très intimes.
Bien sûr.
On ne peut pas juger.
Les réseaux sociaux invitent les uns les autres à réagir sur tout et dans l'instant.
Ce qui est sûr, c'est que le sujet existe. Il y a un vrai mal-être
policier en France. Se servir de cet acte-là...
C'est-à-dire qu'ils sont malheureusement présumés coupables dès qu'il y a une affaire. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais voulu que le législateur, lorsqu'il y a un problème avec un policier, un gendarme, on le mette en état de s'expliquer et non pas immédiatement en garde à vue et mis en examen. Ça permettrait de distinguer. Il représente l'autorité. Lorsque vous avez quelqu'un qui force un barrage de police et que le policier tire, immédiatement, on met le policier qui a tiré pratiquement en garde à vue, ce qui, bien sûr, permet de lui préserver ses droits à la défense. Mais je crois que c'est une certaine différence. Il représente l'autorité, il représente l'État, et on s'arrête normalement lorsqu'il y a un contrôle de police.
Petit bémol, je pense quand même qu'on est dans un pays où l'immense majorité des Français aiment plutôt la police. Contrairement, évidemment.
C'est très variable, cher ami.
Oui, c'est variable, mais
il me semble que la minorité qui n'aime pas la police la déteste. Et lorsqu'on voit la façon dont les Black Blocs se comportent avec eux lors des manifestations, c'est un scandale.
Ça varie. C'est un service public. C'est ça qu'il faut défendre.
Oui, mais je pense qu'on aime plus la police en France aujourd'hui qu'il y a 40 ans.
Ça dépend où, ça dépend
depuis les attentats,
ça dépend. Allez, on se retrouve dans un instant. Les annonces d'Edouard Philippe, mesures ou mesurettes, est-ce qu'elles suffiront à calmer la colère de ceux qui ont l'intention de manifester samedi prochain? On en reparle dans quelques instants. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Alors ce matin, le Premier ministre s'est exprimé. Il est venu annoncer des mesures, primes à la conversion, des indemnités kilométriques plus importantes, une défiscalisation du chèque carburant et du covoiturage, la revalorisation donc du chèque énergie, on l'a dit, et puis l'abandon du fioul domestique et l'aide à la conversion des chaudières. Donc le gouvernement tente d'apaiser la colère des gilets jaunes. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On en parle ce matin sur Sud Radio avec vous. Vous êtes très nombreux depuis quelques jours à appeler, à vouloir vous exprimer. On a Georges qui est en ligne avec nous de Nîmes. Bonjour Georges.
Oui, bonjour. Rapidement.
Oui.
Bon, moi je trouve toujours que M. Macron a toujours un coup d'avance. Donc là, ils ne sont pas aussi fous qu'on le croit. Ils avaient préparé ce genre de...
Vous pensez vraiment que c'était préparé, ça, ou qu'ils sont panique, hein?
Non, il n'y a pas de panique. C'est comme l'histoire du report des impôts et de machin. Tout ça, c'est de la fabrication bien conçue. Je suis frappé par cette capacité. Bon, en ce qui concerne les mesurettes du Premier ministre, encore une fois, comme j'attends d'autres émissions sur le sujet, des gens qui sont à 10 euros près et encore beaucoup moins, ça va leur faire une belle journée. Si ce sont les choses comme elles sont. Tout à l'heure, j'ai entendu, effectivement, ça recommence le débat. Est-ce qu'il est légitime ou pas le Macron? On ne dit pas la question. Vous avez eu ce genre de discussion. C'est surtout aussi le problème, moi, de la liberté de circuler. Moi, je disais tranquillement, et je ne suis pas contre, que les gens manifestent avec, et montrent effectivement par leur nombre le mécontentement avec les gilets jaunes, c'est une chose qu'on empêche de circuler dans mon pays. Et là, j'approuve tout à fait le Premier ministre, encore une fois, je ne suis pas contre les gilets jaunes. Mais moi, je fais c'est très simple. Moi, on m'oppose une force entre moi. Moi, je tape dessus. Et après, on mettra on ira en justice éventuellement avec la médiatisation, tout ça. Ça permettra de voir les choses.
Vous irez manifester, vous, Georges?
Non, je ne vais pas manifester. Je comprends encore une fois, le mouvement, je comprends. Mais pourquoi j'irai manifester?
D'accord. D'accord. Merci, Georges. On vous a laissé le temps de vous exprimer. Donc, c'est le gouvernement a un temps d'avance. J'en suis pas persuadée. Moi, je pense que c'était pas vraiment prévu tout ça, si, Jacques Myard.
Écoutez, je crois qu'il faut reposer l'habitude. Le problème correctement. Le problème correctement, il faut savoir d'où vient la pollution à Paris. 40%, c'est la limite des centrales à charbon de l'Allemagne et même de la Pologne. La pollution automobile, c'est 10 à 15%. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Deuxièmement, on s'aperçoit qu'au niveau de la planète, la pollution vient surtout des transports maritimes. C'est absolument incroyable. Donc ça, c'est le premier problème. Le problème, c'est qu'il faut regarder la loi de finances. Dans la loi de finances, il y a le fameux dégrèvement de la taxe d'habitation. Ça coûte 3,8 milliards cette année. Bizarre, l'augmentation du fuel, des taxes sur le fuel et l'essence, c'est environ 3 milliards, et sur le quinquennat, il en a prévu 15. Donc, Macron s'était pris les pieds dans le tapis sur le dégrèvement de la taxe d'habitation, et il fallait faire face. Donc, ils ont trouvé ça, ils ont dit pas d'impôt, alors qu'un ministre m'avait dit très clairement qu'il y aurait un impôt parce qu'ils étaient incapables de financer ça, et donc, ils ont tapé là-dessus. Donc, je crois qu'il faut véritablement remettre ça calmement. On est tous pour l'écologie, c'est une évidence, mais à mon sens, aujourd'hui, ils se sont pris les pieds dans le tapis, et donc, un coup... On taxe, ensuite on essaye de trouver,
des subventions,
etc. C'est 500 millions par rapport à 3 milliards. Donc on en est très loin. Donc qui a un problème de fiscalité en France et un ras-le-bol, on peut comprendre.
Oui, Mathieu Alterman.
Moi je suis assez consterné par toute cette affaire, parce que je dois dire, il y a des enjeux dans le monde tellement importants, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, toute la révolution.
Il faut manger à la fin du mois, Mathieu.
Oui, d'accord,
il faut pouvoir aller travailler.
Il faut manger à la fin du mois. Bon, sauf que les voitures consomment beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans, premièrement. Deuxièmement,
elles polluent moins,
et la hausse du SMIC horaire est beaucoup plus importante que la hausse du tarif du litre d'essence.
Oui, j'entends les arguments du gouvernement qui disent aujourd'hui on se paye plus fait.
Aujourd'hui, vous pouvez acheter 6 litres quand avant vous pouvez acheter 3 litres. Et ça, c'est pas un truc de passion, c'est un truc purement factuel.
Donc c'est quoi ? Donc vous dites qu'on est dans l'émotion, qu'on est dans l'irrationnel total ?
On est pas dans l'irrationnel, parce qu'effectivement, il y a des pauvres gens qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture et c'est très difficile.
On n'est pas dans l'irrationnel quand à la fin du mois, on n'est plus taxé qu'avant.
Non, vous savez, j'ai discuté avec un chauffeur Uber ce week-end et il me disait qu'il faisait ça. Je lui dis, ça fait longtemps que vous faites ça. Et il me dit, ça fait pas très longtemps, mais je suis obligé de prendre un boulot supplémentaire parce que mon boulot de la semaine ne me suffit pas.
L'essence n'a pas augmenté de 50% en un an. On a l'impression, écoute les débats, c'est un peu ça.
Depuis 1977, c'est plus de près de 50%.
Ça se cristallise sur la question des taxes d'essence. Il y a un vrai mécontentement aujourd'hui dans le pays concernant le pouvoir d'achat, la vie chère. Il y a aujourd'hui des gens qui vont à la pompe et ils ne font plus le plein. Oui. Ils mettent ce qu'ils peuvent mettre. Et donc le gouvernement est en difficulté. Je ne pense pas que ce soit un mouvement dirigé contre la transition énergétique et écologique. Mais ce qu'il voit bien, parce qu'il y a il y a du bon sens populaire, j'ai envie de dire, il voit bien que ces taxes ne sont pas directement consacrées justement à des grands projets de développement pour le développement durable, etc. Il voit bien que ça rend fou les caisses de l'État et il y a eu des arbitrages politiques faits, la suppression de l'ISF, le CICE qui va coûter cette année 42 milliards. Les gens voient bien les informations passées et donc ils se disent cette politique est injuste, elle est déséquilibrée et en plus elle ne va pas bénéficier à la transition écologique. Et après il y a de grosses questions qui restent en suspens. Est-ce qu'on laisse Total est le 9e pollueur sur la planète.
Entre 2017
et vous vous rendez compte, Total, les émissions, les gaz à effet de serre de Total sur une année, c'est 2/3 de l'ensemble des émissions de notre pays. Les autoroutes vont encore augmenter leurs tarifs. C'est une rente, là. Moi, je suis, c'est un scandale d'État.
Donc vous dites qu'il y a de l'argent à prendre ailleurs.
Il y a
ailleurs.
De l'argent.
Savez, c'est ce que disait Gilbert Collard ce matin. Gilbert Collard disait, mais pourquoi, pourquoi
il peut dire pour... s'il pleut.
Non, mais il peut dire, il disait pourquoi on ne taxe pas, effectivement.
Il y a le kérosène, il y a le fait, on a fermé les petites lignes SNCF les avions pour mettre les bus Macron. Il y a tout un tas de choses, quand même.
Il y a tout ce qui se passe avec les transports routiers, effectivement, sur lequel on peut s'interroger, c'est exact. Mais je voudrais quand même dire très clairement que la TIPC, entre 2017 et 2019, va augmenter de 51%. Donc c'est quand même pas, je dirais...
Et la RATP a réintroduit 180 bus au diesel
la semaine dernière. Vous demandez à la direction... Oui, bah c'est ça.
C'est
ce qu'on appelle la cohérence.
Oui, c'est fou. Oui, on va peut-être rappeler du coup ce qu'a proposé Édouard Philippe ce matin, les réformettes...
Vous dites réformettes, donc prime à la conversion.
Voilà, exactement. La prime à la conversion de 4000 euros pour les foyers les plus modestes et l'élargissement des indemnités kilométriques pour ceux qui roulent le plus. Moi, ça me rappelle cette formule de ma grand-mère, déshabiller Pierre pour habiller Paul.
Oh, mais c'était sacrément érotique, alors,
sauf
à l'époque.
On déshabille beaucoup plus, beaucoup plus Pierre quand on voit la hausse folle des prélèvements.
La grand-mère a été osée, hein.
Quand on voit la hausse folle des prélèvements obligatoires.
Un gros rouleur, comme il dit, c'est 60 à 70 km par jour, donc plus de 22 000 km par an, donc d'élargir cette possibilité.
Contrairement à ce que disait l'intervenant tout à l'heure qui nous téléphonait, en réalité, le gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis, et ça, c'est véritablement, il se raccroche, je dirais, à un certain nombre de mesures, y compris notamment en disant, dans 10 ans, on supprime toutes les chaudières au fioul, ou à l'étude d'impact. Qui va les fournir? Quel est le coût? Enfin, véritablement, c'est de l'amateurisme.
Qui va changer sa chaudière? Vous avez envisagé de la changer, mais vous n'avez pas...
Et quelle est l'alternative? Il y a un seul modèle de voiture électrique en France.
Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Retour dans le studio de Sud Radio en direct avec vous, avec Olivier Dartigol, porte-parole du PCF, élu municipal à Pau, Mathieu Alterman, journaliste, Noémie Alioua, journaliste et chroniqueuse à la France Libre, et Jacques Niard, maire de Maison Lafitte, ancien député Les Républicains. Nous parlons donc des annonces faites par Édouard Philippe ce matin pour tenter de calmer la colère des Gilets jaunes. Hakima, vous êtes en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour, merci de me donner la parole. C'est quand même eux qui sont obligés de nous mobiliser parce qu'ils veulent pas nous entendre. Donc à un moment donné, c'est eux qui provoquent l'histoire et en plus ils nous cherchent en publiant qu'il est avec nous alors qu'à la finale ils voient même pas ce qu'on vit parce que en fin de compte on peut plus payer quoi. Faut qu'il arrête les taxes quoi. C'est stop aux taxes quoi. Puis bon, à un moment donné, il veut chercher l'argent. Il a qu'à déjà récupérer l'argent qu'il a donné aux riches. Pour faire l'écologie, puis on met pas la charrue avant les bœufs, quoi. En Angleterre, avant de faire la taxe, ils ont quand même mis des transports en commun supplémentaires, que là, il fait tout n'importe comment. Les voitures, c'est hors de prix. Donc, à un moment donné, on est quand même depuis 20 ans dans la précarité de l'emploi, que les trois quarts des salaires dépassent pas les 1100 euros. Donc, comment voulez-vous que les gens, avec des crédits sur le dos, avec toutes les augmentations, on puisse s'en sortir, quoi.
Irez manifester, vous, Hakima?
Complètement. Déjà, de toute façon, j'ai sur le site. J'ai ma parole et pas que sur ça, quoi. Sur plein de choses, quoi. Mmh. Parce qu'à un moment donné, on construit pas la paix en divisant les gens. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il veut diviser les gens. Et il attend quoi? Parce que les gens, à un moment donné, pourront plus payer, quoi. Donc, il va attendre quoi? Que les gens, ils aillent voler, qu'on aille s'entretuer pour manger notre bout de pain. Alors que le travail, c'est pour vivre. Et on vit pas pour le travail. Parce que là, on est carrément piégé par la hausse des tâches qui nous étouffent, quoi.
Merci Hakima.
Moi, je trouve ça très intéressant ce que dit Hakima, parce que ça illustre le fait qu'il y a quand même toute une catégorie de la population qui s'estime pas du tout représentée par les syndicats quand il y a un problème. C'est ça, en fait, le truc. Qui ont envie de se retrouver pour montrer leur mécontentement, ce que les syndicats n'ont pas du tout compris. On est le pays d'Europe où il y a le moins de gens syndiqués.
La souvenir phrase qui me touche en disant « On travaille, mais ça ne nous permet plus de vivre dignement ». Le niveau des salaires dans notre pays est un vrai problème. Un vrai problème. La répartition de la richesse produite est un vrai problème. Et elle dit une chose, 18 millions de Français se retrouvent dans les zones blanches, c'est-à-dire où il n'y a pas de développement de transport public, transport commun public. Et ils font plus de 35 km par jour. Dans quelle situation ils sont?
C'est vrai aussi en région parisienne.
Oui,
car il ne faut pas croire... Bon, le système des transports dans la région parisienne, c'était des rayons qui... vont au centre, c'est-à-dire Paris. Mais lorsque vous devez aller à banlieue, je suis désolé, les gens doivent prendre leur voiture. Et donc, c'est là où il y a eu une erreur totale, une faute du gouvernement, parce que on n'en est pas encore au stade où les transports en commun peuvent véritablement répondre à tous les déplacements.
Parce que, comme elle a dit, on met la charrue avant les bœufs. Et vous avez
mais c'est une politique à très long terme.
Oui, mais là, vous avez un candidat à la mairie de Paris qui demande la fermeture du périphérique et qui, à aucun moment, explique qu'il va en construire un autre, donc il propose un blocage général. Vous voyez, les gens sont dans les...
Mais politiquement... Parce que ce sont des gamins.
Mais je voudrais qu'on revienne sur l'aspect politique des choses, c'est-à-dire comment le gouvernement, comment Emmanuel Macron s'est mis dans ce pétrin, d'une certaine manière.
Il s'est mis dans ce pétrin parce qu'il a fait des annonces pendant sa campagne où il a annoncé des choses sans en connaître le prix et le coût. L'histoire de la taxe d'habitation, je reviens à ça, qui représente 25 à 30% des recettes des villes, qui sont, je vous le rappelle, le premier investisseur public dans ce pays. Donc c'est une catastrophe, c'est du gribouille.
Il s'est mis dans le pétrin aussi pour une chose. Le macronisme, au temps de la campagne, était l'annonce d'une politique équilibrée. Du « et en même temps ». Or, des millions de personnes ont pu faire le constat que cette politique n'était pas équilibrée. Première chose. Deuxième chose, sur son style, un peu le méprisant de la République, petite phrase après petite phrase, beaucoup de personnes ne supportent plus qu'ils puissent s'adresser à eux de cette manière-là. Et donc, ces deux sujets cristallisent aujourd'hui beaucoup de mécontentement le concernant, je crois.
Et puis beaucoup de gens aussi ont l'impression d'être traités comme des vaches à lait. Alors, je ne vais pas faire de la démagogie, mais c'est vrai que quand on voit qu'on demande des efforts considérables aux Français et que paradoxalement, le train de vie d'État fonctionne relativement bien, je pense à un épiphénomène, mais ça marque l'esprit des gens. Quand on sait, par exemple, que la maquilleuse de Brigitte Macron coûte 10 000 euros par mois et qu'à eux, on leur demande...
C'est plus cher que le coiffeur de François Hollande.
C'est ça, mais si vous voulez, ça crée aussi une
oui, mais ça, c'est pas un peu...
C'est un peu de la démagogie, mais c'est à travers le symbole que véritablement on peut détruire une politique.
Edith Cresson touche toujours quelque chose, a toujours un garde du corps et un chauffeur, alors qu'elle a été Premier ministre pendant 10 mois en 91. Mais moi, il y a un truc qui me marque, personne n'en parle, on n'en parle pas encore aujourd'hui. L'essence, il n'y a pas que les taxes, il y a quand même les pays de l'OPEP qui augmentent le prix du baril. Ça, c'est personne n'en parle. C'est-à-dire que les.
Mais là, le prix de l'essence a baissé, là.
Oui, mais enfin, vous savez ce que c'est, la stratégie de l'OPEP, c'est quand même d'augmenter le prix de l'essence, moins les voitures consomment, quoi.
Non, mais attendez, je vous rappelle que si. C'est une demande de Trump, ça. N'oubliez jamais, c'est que ça va rentabiliser le pétrole de schiste aux États-Unis. Parce qu'il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'en réalité, en faisant augmenter les prix du pétrole, les. Puis américains redeviennent rentables. Donc, c'est pas aussi simple. Ne me prêtez pas du bois simplement l'OPEP.
Allez, on a Joël en ligne avec nous. Bonjour Joël.
Bonjour, vous m'entendez là ?
Oui, on vous entend.
Voilà, ce matin, j'ai entendu l'annonce d'une ministre là, qu'il fallait dans 10 ans supprimer la chaudière. En fin de compte, au fioul, c'est ça, hein, supprimer la cuve. Moi, je viens de changer ma voiture il y a un an et demi. Donc, j'avais une Laguna, je l'ai revendue 500 euros. Mais là, j'ai repris une voiture, une plus récente, 2014, diesel, que j'ai payé 9000 euros. Et là, maintenant, j'entends qu'il faut changer la cuve. Alors là, il me déboute. C'est impossible. On ne pourra jamais changer notre chaudière. Alors, même en changeant de véhicule, la personne qui va changer de véhicule, elle va payer une TVA pour le véhicule. Je ne sais pas, il prend une voiture à 5000 euros. Je ne vois pas comment on peut acheter une voiture électrique à 5000 euros. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Et bon, on paye la TVA en changeant cette voiture, et en plus, il va augmenter le carburant, donc, même si on prend un diesel, comme moi j'ai pris, je vais me refaire taxer tous les ans. Mmh. Un peu plus, je vais encore payer plus. Voilà, et j'ai plus du tout confiance en ce président. Malgré que j'ai voté pour lui, là c'est fini, et puis j'irai manifester.
Un cocu, c'est jamais être agréable. Hein.
Oui. Focus, oui, là aussi.
On n'est qu'une fois, rarement deux.
Ouais, enfin, sauf que si on revient un petit peu dans la réalité, on sait que dans 10 à 15 ans, on aura tous des voitures électriques entièrement automatisées qu'on ne conduira plus nous-mêmes. La vérité, c'est ça.
L'électricité, comme disaient les écolos, elle vient de la prise, n'est-ce pas ?
Oui, d'accord. Mais la trajectoire est celle-là, vous avez raison.
Ça va être ça.
Mais regardez la situation aujourd'hui. Quand vous allez dans un concessionnaire, il ne vous propose pas la voiture électrique.
Mais c'est ça le scandale.
Il vous propose le diesel. Et elles sont, qu'elles soient électriques ou hybrides, elles sont inaccessibles pour le plus grand nombre.
Non. Non, non, c'est pas vrai. Bah, il y a une prime de 7 000 euros sur l'électrique et vous pouvez aujourd'hui avoir une Renault Zoé pour 17 000. C'est pas inaccessible, c'est cher.
Mais ça reste l'électricité. Cher.
Mais il y a plein de gens qui achètent des voitures supérieures à 17 000 et ils achètent du diesel.
Mathieu,
ça reste
ce sera le nucléaire qui fournira l'électricité. Ouais. Bon, il y a un moment, c'est une chaîne, hein. C'est pas comme, je vous dis, il y avait un slogan en Allemagne, l'écologiste qui dit, moi je m'en fous, je prends l'électricité de la prise. Mais il y a un moment, il faut alimenter la prise.
Mais alors, alors c'est très parisien, mais il y a des gens qui ont acheté des voitures électriques à Paris et qui aujourd'hui se retrouvent cocus, pour reprendre votre terme, puisqu'ils ne peuvent plus les charger dans Paris, puisqu'il n'y a plus les bornes pour recharger. Donc comment ils font? Donc ils
ont acheté des photos d'ailleurs assez surprenantes sur Internet avec des gens qui relient leur appartement
à la voiture,
charger leur voiture
de 200 mètres.
Exactement. Et c'est assez surprenant, mais ça montre bien le problème aujourd'hui de.
C'est ça qui est lamentable, c'est les constructeurs.
Il reste à déterminer, parce que là, moi, je ne sais pas, je ne suis pas expert, quel est le bilan carbone de la voiture électrique.
Non, le problème, c'est lors de la construction de la voiture, elle pollue plus que lors de la construction d'une voiture à essence.
Il y a le recyclage des batteries.
Ah, ça, on ne sait pas, effectivement. Ah bon. On espère donc, que l'avenir nous permettra de les recycler.
Je trouve qu'une société qui se comporte comme panurge, tout d'un coup, on va dans cette direction, tout d'un coup, on va dans l'autre, il y a un moment, il faut raison garder.
Sauf que l'avenir sera le transport en commun collectif électrique. C'est ça, le vrai truc. C'est ce que prépare Elon Musk en Californie, et on sait qu'on va vers
ça. Acte. Mmh. Il n'en demeure pas moins qu'on n'en y est pas. Alors. Demain, on rase gratis, c'est ça?
Alors, on a Sophie. Sophie en ligne avec nous. Bonjour, Sophie.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Sur le plateau. Oui, ben moi aussi, hein, je suis concernée donc comme tout le monde, effectivement, et on n'en peut plus parce que le problème c'est que le pays, moi je trouve qu'ils mettent la charrue avant les bœufs, c'est le pays est même pas équipé pour cette transition, hein, il manque des bornes de recharge de partout. Et sans compter que moi j'entends monsieur 17 000 euros, non mais c'est une plaisanterie, mais vous vous rendez compte, 17 000 euros, mais c'est énorme pour les foyers à l'heure actuelle. C'est dramatique, s'ils veulent que les commissions de surendettement explosent, etc., etc., alors, parce qu'il y a peu cher des gens qui effectivement font des prêts à la consommation pour pouvoir payer ça, non mais où on va? Là le problème c'est que monsieur Macron finalement veut supprimer les intermédiaires, mais là le peuple va lui montrer ce que c'est le non-intermédiaire, sans intermédiaire, et ça risque d'être dramatique.
Vous irez manifester?
J'ai mis le gilet jaune à la voiture.
Oui. Ah bah de toute façon, c'est obligatoire. Vous devez l'avoir dans la voiture, mais
Je l'ai mis comme au début sur
le siège,
le tableau de bord.
Sur le tableau de bord, et puis mais.
Parce que il y a des endroits. Quand on pense que nous, chez nous, ils arrivent même pas à trouver deux médecins pour remplacer un cabinet qui vient de fermer, alors qu'on n'est quand même pas dans le rural de chez le rural, mais que la moindre ville est à 25 km, donc on se dit non, mais après on nous placarde des trucs de pas prendre la voiture, de pas si.
Comment on fait,
gaz,
c'est
là, on vient d'avoir une énorme augmentation. Il faut savoir que dans les collectifs, on est au gaz de ville, donc on n'a pas le choix. On est obligé de prendre le gaz de ville qui nous alimente pour faire la cuisine. Mm-hmm. Et je veux dire, on est à un point de non-retour, d'ailleurs, je pense, moi, parce que le peuple n'a pas le choix. On nous met... alors les gens ne sont pas contre cette transition, mais... Voilà, comme moi je dis, en 68, on rêvait d'un monde meilleur. En 2018, les gens ont peur du lendemain. Enfin, je veux dire, c'est anxiogène.
Merci, merci beaucoup.
Il y a une chose dans le témoignage sur le consentement à l'impôt. Moi, je suis pour que, sur cette question-là, on ne glisse pas vers du poujadisme fiscal. L'impôt, qu'il soit direct ou indirect, c'est important pour avoir les recettes de l'État, développer les politiques publiques.
Et les services publics.
Mais celles et ceux qui témoignent aujourd'hui disent, on paye, on est mis à contribution... Mais on voit dans nos territoires se dégrader l'offre publique, qu'elle soit de transport, qu'elle soit d'éducation, parfois de santé, les hôpitaux publics de proximité. Et donc ils disent, mais tout ça sert à quoi? C'est aussi, c'est en train de monter sur la journée du 17.
C'est ça, et je pense qu'ils trouvent injuste de devoir être autant pénalisés avec leur voiture qui peu chère parce qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils ont dû acheter difficilement. Finalement, ils sont autant pénalisés que quelqu'un qui roule en 4x4 diesel à 40 000 euros à Paris.
On a un recul général de l'État. Et pour moi, l'État, c'est pas quelque chose d'évanescent. C'est l'incarnation juridique de la nation.
Ouais.
Et c'est la raison pour laquelle j'estime qu'aujourd'hui, parce que ça, il faut mettre Bruxelles dans le coup, hein, je suis désolé, cette espèce de volonté d'avoir des services universels qui ne sont pas des services publics, eh bien, je peux vous dire que ça peut déstabiliser profondément la France, et d'ailleurs, pas simplement en France. Lorsque vous songez que, notamment au Royaume-Uni, il y a ce phénomène de deux... profession par jour, de deux métiers par jour pour pouvoir vivre, ben, y a un moment, on se dit, il y a quand même un problème.
Mmh. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler quand même de cette proposition pardon, de favoriser le télétravail pour lutter contre l'absentéisme. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio, on est en direct, on commence l'actualité avec Olivier d'Artigol, Jacques Myard qui continue à parler, Noémie Alioua et Mathieu Alterman. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Faut-il développer le télétravail pour lutter contre l'absentéisme? Alors c'est le Premier ministre qui a commandé une mission pour réfléchir à l'usage du télétravail en entreprise pour minimiser les arrêts de travail de plus de 6 mois qui coûtent très cher à l'assurance maladie. Alors le télétravail, c'est très bien, mais pourquoi le lier...
Peut-être qu'il parlait pour lui.
Vous pensez qu'il va travailler de chez lui. Pourquoi le lier à la maladie? Parce que je pense que quelqu'un qui s'est cassé le pied et qui doit rester chez lui trouvera certainement un arrangement avec son entreprise. Je pense qu'il y a un vrai sujet du télétravail, mais pourquoi le lier à la maladie?
Non, parce que effectivement, ça peut paraître absurde, parce que moi, je suis évidemment pour le développement du télétravail, mais mettre la maladie là-dedans... Plus personne ne comprend, mais non, vous savez, quand vous êtes cassé la jambe et vous voulez travailler quand même en continuement, c'est extrêmement contrôlé. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez même pas le droit de passer 2 secondes au bureau. Si vous êtes contrôlé, l'entreprise peut être très, très gravement condamnée.
Non, mais vous, travailler au noir hein, aussi. Hein.
Ouais. Non, mais il y a un vrai souci. Moi, je parle en connaissance de cause, je veux dire, ma femme s'est cassée la cheville cet été, elle est directrice de la pub d'un grand magazine. Mmh. Elle n'a pas pu, on lui disait surtout, tu viens pas, tu ne peux pas, c'est interdit. Ouais. Donc, il y a un vrai problème. Et quand on a des grosses responsabilités, il y a un moment, il faut bien faire quelque chose.
On peut
chose.
Le faire, mais le et télétravail conseille... se développe, c'est bien. Et
quand je on a des grosses responsabilités, c'est compliqué de ne pas être au boulot.
Mais je conseille la lecture du dernier livre de Nicolas Bouzou, qui parle du management en France. Ouais, ouais. Et il parle du télétravail, c'est fabuleux. Vous savez que quand vous voulez faire du télétravail, sans être malade, hein, dans certains postes, on vous le refuse parce que vous n'êtes pas assez haut dans la hiérarchie, vous n'avez pas le droit de faire du télétravail en fonction de votre...
Le télétravail existe déjà, il y a aussi des salariés qui ne déconnectent jamais, qui sortent du bureau, qui restent sur les messageries, sur etc., qui sont bouffés par le stress et par des techniques de management de plus en plus difficiles à supporter. Mais là où je ne comprends pas, c'est que si on parle de l'absentéisme, il faut aussi parler du travail. On parle toujours de l'emploi dans notre pays. On parle peu du travail. Quel travail? Le sens du travail? Et il y a aujourd'hui beaucoup, pour certains postes, de souffrance au travail. À tous les niveaux, d'ailleurs. Il y a un vrai sujet de burn-out dans notre pays, sur de la souffrance psychique au travail, y compris physique. Mais donc, moi, là, on rapproche deux sujets qui, d'après moi, je ne vois pas la relation.
C'est pour ça que j'avais envie d'en parler ce matin, parce que je ne comprenais pas bien...
S'il y a un développement du burn-out au travail, il faut quand même pas oublier qu'il y a une augmentation constante du bien-être au travail également. Donc, on ne peut pas nier les deux courbes. Raison. Il y a deux courbes, quand même.
Et pour revenir, en tout cas, sur les dangers de cette proposition, on peut imaginer assez facilement des patrons un peu scrupuleux qui vont demander à leurs employés de rester collés à leurs mails, même s'ils ont 42 fièvres. C'est possible et c'est une des failles.
Pourquoi le lier à la maladie, effectivement?
Ça paraît un peu incongru. Encore que, effectivement, la jambe cassée, etc., si vous êtes un libéral, etc., vous pouvez peut-être, vous avez une entreprise, effectuer un certain de tâches de chez vous. Mais à mon avis, le télétravail, y compris en région parisienne, moi je le vois, parce que j'ai un certain nombre d'employés de la ville qui parfois, notamment, font du travail chez eux pour des raisons de déplacement qui sont difficiles. Mm-hmm. Donc on ne peut pas exclure ça. Mais ça n'a rien à voir stricto sensu avec la maladie.
Ils auraient dû l'associer à l'empêchement de se déplacer vu l'évolution du cours de l'essence.
Ça n'a rien à voir avec la maladie.
Mais le gouvernement donc, a décidé de s'attaquer d'une manière générale aux arrêts de travail. Ça fait partie pour réduire le coût que ça représente.
Il suffit d'avoir des contrôles de la sécurité sociale qui soient bien faits, là, ce côté-là.
Ouais, les arrêts de plus de 6 mois représentent 7% du nombre total des arrêts, mais ils représentent dans le même temps 44% du coût des arrêts pour la sécurité sociale. Donc 7% des arrêts de travail plus de 6 mois, 44%, donc il y a effectivement une question. Maintenant, est-ce que le télétravail va permettre de régler ça? Jean-Pierre est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Oui,
Jean-Pierre,
bonjour,
on vous écoute.
Oui, alors moi, le télétravail, je suis pas pour. Hein, parce que quelqu'un qui travaille dans une société, s'il y a un problème d'ordre psychologique, on le voit, c'est renfermer la personne chez elle et qui utilise. Comment ça va être déclaré, cette histoire? Parce que moi, j'ai essayé de faire du télétravail hein, parce que j'étais un peu bloqué chez moi. Je faisais une reconversion et il n'y avait pas de statut réellement. Je ne sais pas si je cotisais pour ma retraite. Et si je passe faire de la télé-prospection au téléphone, est-ce que les heures que je passerai me seront payées ou c'est à chaque fois que je décroche pas un contrat quoi? Non, moi je suis pas pour, mais vraiment pas.
Vous êtes pas pour, vous pensez que c'est compliqué?
Noémie. Oui, ce qui peut être, ce qui est étrange aussi, c'est qu'il y a plein de métiers où c'est pas possible de faire du télétravail. Les restaurateurs, les caissiers, les maçons, on voit mal comment ils peuvent travailler de chez eux. Donc on va faire quoi? Une loi à deux vitesses entre ceux qui peuvent travailler de chez eux et ceux qui ne le peuvent pas? Ça paraît difficile à mettre en œuvre.
Oui. Je pense que ça touche en plus principalement les cadres.
Oui, façon, les cadres, c'est surtout peut-être une chose les fonctionnaires.
Qui fait... Oui, c'est fait pour les cadres. Donc,
fonction publique.
C'est effectivement, c'est il y a des gens qui... Pour le cadre d'un magasin, s'il n'est pas si jacquard, ça pose un problème.
La fonction publique demande une présence. Mais effectivement, il y a un certain nombre de métiers, un certain nombre de positions qui permettent le télétravail. Je crois qu'il ne faut pas être dogmatique dans cette affaire.
Alors, ça permet aussi de réduire l'empreinte carbone. Ça va dans le même sens que ce que fait le gouvernement.
Ça dépend parce que, vous savez,
c'est
maintenant,
mieux qu'une taxe, en tout cas.
Les ordinateurs demandent de plus en plus d'énergie.
Ouais. Un mot, quelques mots quand même sur l'intervention ce soir du président de la République aux 20h de TF1. Un président qui avait déclaré qu'il n'aurait pas une présidence bavarde. Il est depuis, effectivement, le porte-avions Charles de Gaulle.
Il n'aura pas de problème d'éclairage si la source d'énergie là, est nucléaire.
Il m'a volé ma vanne, je l'ai fait dans l'antenne.
Désolé. Après un forum pour la paix, aller sur un porte-avions.
Non, mais pour parler d'essence.
Les annonces ont été faites ce matin par son Premier ministre. Est-ce qu'il veut faire le service après-vente? Tout ça me semble entre la rareté de la parole présidentielle qui a été théorisée en son temps.
Et qui a été actée pendant près d'une année, sa première année de présidence.
Et aujourd'hui, sa surexposition après l'itinérance mémorielle, ça. Moi, je suis favorable à ce qu'on mette ce sujet en première année dans les écoles de com. Tout ça me semble...
En fait, Jupiter est pas loin de la roche tarpéienne.
Voire même de Yves Mourouzi dans les années 80 qui disait bonjour dans des endroits très différents dans le monde. Ça devient Mourouzi, en fait, le président.
Noémie, cette intervention du président ce soir qui avait effectivement dit qu'il ne...
Que l'exécutif est très fragilisé. C'est vrai que je regardais ce matin Édouard Philippe quand il parlait de ses mesures et quand on regarde la vidéo, on voit bien qu'il regarde ses chaussettes, qu'il est mal à l'aise. Et là, on sent qu'il se rend compte qu'il y a une vraie colère qui gronde dans le pays. Ils attendent de voir ce qui va se passer le 17 novembre avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais à mon avis, ils se rendent compte sans doute qu'ils vont peut-être trop loin dans ce qu'ils demandent aux Français en ce moment et qu'il peut y avoir un retour du bâton.
Mais est-ce qu'une intervention du président de la République sur TF1, je précise, il n'y a eu qu'une intervention sur France 2, service public, depuis le début du quinquennat.
Il a rappelé qu'il y a eu l'itinérance mémorielle qui était un grand moment de communication où déjà il s'est exprimé très largement.
Oui, non, mais c'est ça, c'est pourquoi cette intervention ce soir? Parce que c'est très bien la rénovation du Charles de Gaulle.
Moi, tout ça,
Gaulle,
ça me fait penser un peu à un chien fou.
Je veux dire, franchement,
vous savez, le chien fou qui a besoin absolument de parler.
Toujours pensé que Marabout était à l'Élysée, n'est-ce pas? Et qu'en réalité, moi je n'ai attendu rien de la proposition de Macron parce que c'est une permanence de contradiction. Ouais. Donc voilà.
C'est une contradiction supplémentaire, selon vous.
Voilà.
Bon, on verra ce qu'il va annoncer ce soir, ce sur quoi il va s'exprimer. André Bercoff, vous avez une idée? Bonjour.
Bonjour Valérie. Alors mais Macron s'exprime toujours dans le bien, la clarté, la lucidité et la vision. Voilà. Donc je ne vois pas comment vous pouvez avoir un doute sur notre conducteur bien-aimé.
Vous déposez votre CV pour la communication lycéenne, non?
Mais écoutez,
ils sont parfaits.
Moi je m'appelle Bruno Gellon, tu vois.
De quoi allez-vous parler, André?
Eh bien écoutez, on va parler de un Macron, ça Trump énormément.
Mmh. Vous allez revenir sur les tweets... Les tweets du président américain.
Et puis on va parler évidemment... des gilets jaunes, vous avez parlé longuement. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est que le 100 mois, le 17, a été fait par un employé de La République En Marche.
C'est-à-dire que le 100 mois, c'est la contre...
C'est le 100 mois, c'est de dire je ne serai pas à la
manifestation.
Et on a découvert, mais c'est un vrai, que en fait, ça avait été... On disait que c'était spontané et populaire. Ouais. Ça a été fait par un salarié de La République En Marche.
Ben bien sûr.
Et vous ne parlez pas de Michel Obama?
Sauf que le mouvement, on va voir. Hein,
vous ne parlez pas de Michel Obama?
Non, je ne parle pas de Michel Obama parce que ça me paraît beaucoup plus important de parler des mémoires d'Aurore Berger qui vont paraître bientôt.
Et pour moi,
entre Michel Obama et Aurore Berger, excusez-moi... Il n'y a pas de.
Elle a déjà des mémoires, ça veut dire qu'elle ne sera plus là dans quelques temps.
Non, c'est évidemment. Merci.
Non, mais c'est très bien, Michel Obama, on sera ravis de l'écouter.
Merci. Ah bon? Je pensais que vous étiez moins politiquement correct.
Moi? Mais Michel Obama, j'adore. Michel, c'est ma baraque. Et comment elle va se représenter? Vous savez quand elle se présente en 2000.
C'est notre ami Julie William Goldnadel qui dit défense de bouder ce consensualisme BA en le trouvant bêta. Voilà, parce que toute la presse est unanime en dévotion à Michel Obama. Mais on aura l'occasion l'occasion d'en reparler. Allez, merci à tous les quatre. À suivre, donc André Bercoff en très grande forme, juste après le journal.